Tout inclus, c'est un voyage au cœur des vies d'individus inspirants qui semblent avoir fait un pas de plus vers la réelle inclusion. Des gens qui accueillent les différences comme une richesse à notre société. Je m'appelle Valérie Toupin de la Fontaine, je suis conseillère en éducation et en coopération. Voici Tout inclus, le balado, une inclusivité de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Avec moi aujourd'hui, Robert Boudreau, ancien coordonnateur du camp de Lille et actuellement assistant de recherche pour le GIREL, un groupe interdisciplinaire de recherche sur l'expérience inclusive de loisirs, et Teresa Soto, maman de Alejandra, qui est une enfant qui vit avec une maladie génétique rare et qui fréquente le camp de jour depuis 2017. Bien, merci d'être là pour nous partager un petit bout de votre histoire aujourd'hui. C'est très apprécié. J'ai envie d'entrée de jeu qu'on commence avec Teresa et que vous nous parliez un petit peu d'Alejandra et de sa maladie et de ce qui la caractérise, finalement.
Mm-hmm. Bon, nous sommes arrivés ici au Canada quand Alejandra avait presque 3 ans. Et donc, à ce moment, le but de déménager ici, c'était vraiment améliorer sa condition de santé parce qu'elle avait, jusqu'à ce moment, à notre connaissance, une maladie cardiaque. Mais on ne savait pas que c'était quelque chose de génétique. Nous, on la gardait beaucoup, on la protégeait beaucoup à la maison parce qu'on avait, comme on dirait, crainte qu'elle se contamine, qu'il y a des autres maladies qui pourraient empirer sa situation justement à cause de le problème cardiaque. Donc, c'est comme ça qu'elle a eu des suivis à Saint-Justin. Là-bas, ils ont fait un cathétérisme cardiaque en première instance et elle a amélioré un petit peu, mais toujours on a évité, par exemple, la garderie, toujours pour prendre soin d'elle plus à la maison. Donc, tout ce temps, nous, on faisait aussi nos choses concernant la validation des titres et tout ça, mon mari et moi, parce que, bon, on voulait faire nos vies professionnelles aussi. Finalement, quand elle a rentré à l'école, on voyait que pour la communication, serait mieux qu'elle soit plus avec des autres enfants de son âge. Donc, à ce moment, on a cherché un camp d'été, comment dire, qui soit plus sécuritaire pour elle. Et on voyait vraiment, quand on a fait la recherche, que ici, le camp de Lille, c'était un endroit vraiment qui pourrait accomplir ce que nous, en tant que parents, on pensait que c'est la meilleure chose pour elle. Bon, heureusement, c'était bien réussi notre choix parce que nous, on rencontrait vraiment de belles qualités de gens dans les camps. Et c'est comme ça qu'elle a fait tout vraiment l'été. Chaque semaine, elle était ici parce qu'elle aimait vraiment ça. Parce que nous, on disait ça, si elle n'aimait pas, bon, on va retourner à la maison.
Et c'était un camp de jour régulier, donc c'était pas un camp de jour spécialisé pour des enfants qui auraient eu un handicap. C'était vraiment un camp de jour tout à fait régulier ici à l'île des Sœurs.
Heureusement, rien de ça, parce que avant, nous, on avait essayé que peut-être relié à sa condition handicap, que peut-être elle aurait besoin de quelque chose plus particulier. Mais quand on a essayé de voir cette sorte de camp, c'était comme trop pour elle et aussi pour nous. Parce qu'on voyait vraiment des enfants qui avaient des conditions avec des besoins plus spécifiques, non? Parce que ce sont des enfants qui ont besoin de plus attention. Et ce n'était pas son cas quand même. Elle avait besoin de partager avec les autres, mais pas de la même façon, comme on dirait, comme sa sœur, qu'elle est toute seule au camp. Et ses sœurs, elles l'ont fait, comme on dit, plus régulièrement, d'une façon plus libre. En tant que pour elle, moi, j'avais toujours peur qu'elle arrive quelque chose. C'est comme ça que quand le camp a offert de faire du bénévolat, moi j'étais vraiment enthousiaste avec cette idée et j'ai essayé d'être présente toutes les fois que c'était possible, surtout pour les sorties, parce qu'il faisait aussi des sorties à centre-ville et c'était vraiment, vraiment bien, tout était bien. J'ai remarqué qu'il arrivait quelque chose qu'elle pourrait être en danger, donc ça m'a rassuré beaucoup aussi.
C'était un endroit qui était plus sécurisant, puis le camp, la condition d'Alejandra demandait quelques niveaux de soins, mais pas de là aller dans un camp plus spécialisé.
Exactement, non, rien de ça. Parce que, par exemple, si on repensait à un camp compétitif pour quelques sports, c'est sûr que je ne pourrais pas le mettre parce qu'elle va être pas bien à l'aise, parce que sa condition cardiaque ne le permettrait pas. Mais ici, c'était vraiment standard, mais quand même, la façon que étaient gérées les équipes, les groupes et tout, c'était une ambiance agréable. Donc, moi, j'ai remarqué ça et j'ai dit, OK, bon, et elle aussi. Donc, c'est ça qui nous a fait qu'on continue, dans les camps.
Vous avez parlé de bénévolat, on y reviendra, mais parce que je pense que ça fait un peu partie d'une des mesures qui a été mise en place là aussi pour pour Alejandra dans le camp. Mais j'aime retourner vers Robert parce que, dans le fond, le camp a été là, créé. C'était un nouveau camp à l'époque. Donc, quand Alejandra est rentrée au camp de jour là, à 4 ans, je pense, 4-5 ans?
Elle avait 5 ans.
5 ans. 5 ans. Donc, à 5 ans, c'était la première année aussi là, du camp, je crois. Donc,
oui, absolument. C'était la première année. Puis, en fait, je pense qu'Alejandra était comme dans nos premières campeuses. Puis que vraiment bien résumer un peu l'expérience que ce qu'on voulait faire aussi avec le camp de jour. C'est super drôle, je pense beaucoup à ça, puis qu'on s'est fait inviter pour le balado. L'Action Prévention Verdun, qui est l'organisme pour lequel ils sentaient le besoin de créer un nouveau camp de jour à l'île des Sœurs, puis avec la station où ce qu'on est présentement, quand on m'a engagé comme chargé de projet, moi j'avais quelques expériences dans les camps de jour. J'avais été un petit peu moniteur ici et là. J'avais beaucoup une grosse expérience d'animation. Fait que j'ai passé 10 ans, 15 ans avec des enfants, mais jamais dans le cadre de opérationnaliser un camp de jour ou un camp de jour qu'on va dire standard, ce qu'on pourrait voir. Fait que j'avais beaucoup d'idées. J'étais très créatif. Puis des bonnes intentions, je pense. Puis la sécurité un peu. Puis justement, tu sais, l'expérience qu'on voulait faire vivre aux enfants, mais sans nécessairement ce cadre régulier qu'on voit souvent. Fait que j'explique ça parce que moi, quand on m'a dit faire un camp de jour, on avait plein de choses qu'on connaissait pas. Fait qu'on essayait juste de faire de notre mieux. Puis quand on a eu l'opportunité, ben c'est ça, l'histoire, je me souviens, la première fois que je l'ai entendue avec Teresa puis Alejandra, on était comme, mais faut qu'on essaye de faire pour qu'ils puissent venir. Puis c'est tout le temps un peu en riant, mais quand en plus Teresa s'est proposée comme, ah, pour être bénévole dans nos sorties, nous, on a vu ça très gagnant-gagnant parce que là, oui. C'est comme, ah, cool, on a une bénévole de plus. Puis en plus, je veux dire, Alejandra, c'est une ange à avoir comme personne aussi, là. Fait qu'on était juste très heureux, là. Je ne voyais que du bien ressort de ça.
Est-ce qu'il y avait des mesures qu'il fallait mettre, des choses à penser, là? J'entends la sécurité, sa condition de santé qui était un petit peu plus fragile, son système plus fragile aussi. Est-ce qu'il y avait des choses en place comme pour un gestionnaire de camp, un coordonnateur de camp qu'il fallait prendre en considération pour que les journées de cet enfant-là soient tout aussi bénéfiques que les autres?
Le bout drôle et la confidence, c'est que j'ai travaillé dans d'autres camps après et j'ai été avec l'association des camps. En 2018, on est devenu membre de l'association des camps puis certifié également. Fait que pendant 2018, j'ai fait énormément de devoirs sur c'est quoi des procédures sécuritaires. Mais là, on était en 2016-17, je n'avais pas ces outils-là. Fait que ma seule chose que je pouvais offrir, c'était sur l'informel, puis c'était on le sait. Fait que tout le monde dans le camp de jour, tous les moniteurs connaissaient la condition d'Alejandra. Fait que tout le monde avait comme le souci de, OK, utiliser le gros bon sens. Comme de pas nécessairement comme, OK, il faut absolument que ça soit fait comme ça, mais plutôt comme si toi, tu étais dans une situation, qu'est-ce que tu penses? Puis on avait une bonne équipe, puis je pense que ce partage-là, puis on se parlait beaucoup, puis comme, puis Alejandra, c'est une personne, mais tous les enfants, je pense aussi que, tu sais, chaque fois qu'on avait, des jeunes, des fois, qui avaient des problèmes de comportement également ou d'autres besoins, puis on se parlait beaucoup entre équipes pour se supporter. Fait que nos outils venaient de ce partage de connaissances puis d'expériences entre nous. Quand quelqu'un avait une bonne idée, on n'hésitait pas à en parler, puis comme ça, on avait ce souci de sécurité-là, mais avec cette naïveté-là, un peu comme on essaie des choses.
C'était, je pense, la communication que ça fait beaucoup. Et le travail en équipe, ça, c'est toujours, ça, c'est gagnant, toujours.
Puis ça prend la confiance aussi des parents d'être capable de se parler. On se parlait souvent, puis comme, ah, exactement, tu sais, on y allait semaine par semaine. Ah, cette semaine-là, ça a bien été, puis qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Puis ça nous permettait de vraiment juste, je disais, les partages entre les moniteurs, mais aussi avec les parents. Je me souviens, vous me donniez quelques petits conseils.
La transparence et la collaboration entre les parents et le camp est primordiale pour assurer une intégration réussie. Une bonne communication est essentielle à chaque étape du processus, du moment de l'inscription jusqu'à la toute dernière journée de camp. Ça permet d'ajuster les mesures d'accommodement mises en place et de s'assurer qu'elles répondent bien aux besoins de l'enfant.
comme une inclusion naturelle qui se créait, là, peut-être parce que le camp était petit, parce que les gens à la tête de ce camp-là avaient une vision sans doute et des valeurs assez inclusives. Donc, ça semblait être un parcours qui a été plus facile, même plus facile que vous aviez pensé pour votre fille ici dans le camp. J'ai envie de vous demander, est-ce qu'il y a d'autres milieux où Alejandra vit plus de défis, où vous vivez plus de défis au niveau de l'inclusion, soit dans les loisirs, dans le milieu scolaire? Est-ce que vous sentez que parfois, c'est pas tout aussi naturel que ça l'a été au camp?
Et je dirais que peut-être c'est comme à l'école, non? Et pour les activités qu'ils font, surtout sportives, non? Parce que toujours, on devait apporter un certificat du médecin pour dire que vraiment, il ne faut pas les pousser trop, qu'elle ne pourrait pas faire des activités compétitives dans ses bouts. Tout ça était, comme on dirait, au passé. Après la chirurgie, un an, 2 ans, comme ça, de faire attention beaucoup à ça. Aucun sport d'impact direct, un ballon qui va les frapper dans la poitrine, rien de ça. Mais c'est quelque chose que, malgré qu'on donnait ça, par exemple, des fois, le responsable ne faisait pas attention. Donc nous, on avait beaucoup, parce qu'on avait vécu 2 fois l'expérience semblable que l'on poussait. Et bon, l'enseignant a dit, donc elle a continué, et ça poussait trop fort. Et nous, on l'avait dit, non, Alejandra, maintenant, il ne faut pas faire ça. Tu dois dire que non, appelle maman, appelle papa, pour que nous, on va dire la même chose, que c'est pas un choix, c'est vraiment une indication de ton médecin que tu ne peux pas faire ça maintenant. Donc ça, surtout au niveau de l'école, depuis... Honnêtement, d'autres, je ne pourrais pas dire, parce que je trouve quand même ici au Québec sont vraiment inclusifs. Et je trouve que les conditions que j'imagine, c'est tout comme des normes du pays pour essayer d'inclure plus à tous les autres enfants, parce que vraiment, normal, c'est quoi ça? Hein? On est tous normaux, il n'y a pas vraiment quelque chose écrit. Et chaque enfant, même si on a des conditions plus normales, va passer des brouillés égales que l'autre enfant, non? Donc, c'est juste comme donner les opportunités pareilles à tout le monde, je dirais.
La Charte des droits et libertés garantit le droit à l'égalité. Tous les enfants peuvent s'inscrire au camp de jour et profiter des activités qui y sont offertes, et ce, sans discrimination. Les gestionnaires de camp de jour ont un rôle à jouer. Ils doivent inclure les enfants en situation de handicap et travailler activement à réduire les obstacles à leur participation pleine et entière.
Je me souviens, la première année, on n'avait même pas de politique, peut-être pas notre plus grande fierté, mais on n'avait pas de politique de comment un enfant, si jamais il y avait des problèmes puis qu'on n'était pas capable de le gérer, on passe, veut pas, des fois, on a des limites comme humain, qu'est-ce qu'on fait avec ça?
Combien d'avertissements, mettons, quel comportement qui mène à l'expulsion? Là,
on avait un code de vie, mais je me souviens, c'était le code des pirates, parce qu'on était un camp de pirates, puis c'est le règlement numéro 1, c'était on garde le sourire, là. Mais effectivement, on n'avait pas après tant de temps, mais c'est que ça nous a permis de quand même... J'avais tout le temps une politique, puis c'est super informel, mais on rencontrait les parents, puis dès qu'un enfant avait une situation, moi, je prenais le temps avec le parent à la fin, dire, écoute, le petit tel, petit une telle, aujourd'hui, ça n'a pas bien été, puis le parent disait, ouais, je sais, il y a de la misère à la maison, puis tout ça, OK, tu sais, on comprend. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que nous, on fait? Puis ça revient vraiment au partage, puis de juste essayer d'avoir cette volonté-là de vouloir garder la personne, parce que moi, il n'y a rien qui m'aurait fait le plus triste de devoir dire à un enfant, OK, tu ne peux plus venir au camp. Puis après les années, on s'est modulé, puis on a été capable d'aller chercher un peu plus cette formalité-là. Mais encore à ce jour, il n'y a rien qui va me faire plus pleurer puis être émotionnel qu'à un moment donné, devoir se réaliser, ah, on n'a pas été capable. Parce que c'est un peu... On est humain, fait qu'il faut comprendre notre limite. Mais ça vient toujours toucher. Puis je suis convaincu que beaucoup de monde qui travaille dans ces genres de domaines-là, tu veux pas te rendre là, fait que t'essayes tout. Quand t'es rendu là, c'est faut que tu te convainques, parce que c'est souvent vrai, t'as vraiment tout essayé ce qui était possible. Puis même après ça, puis ça des fois arrivé, OK, bon, ben on va peut-être le ramener à la maison pendant une semaine, puis on va le réessayer après, juste pour voir s'il a réussi à comprendre, puis on le récupérait toujours avec la meilleure émotion, l'espérance. OK, ouais, cette fois-ci, ça va marcher. Là. Puis là, je dis ça, ben, encore une fois, je veux juste préciser à Alejandra, on n'a jamais eu de problème du tout de comportement. Mais par contre, je me souviens qu'à un moment donné, c'était super drôle parce que plus qu'elle prenait confiance, puis c'était vraiment bien, des fois, on la voyait faire des petits mauvais coups. Mais ça, c'est le fun, ces petits mauvais coups-là, là, parce qu'il s'essaye, il essaye de tirer un peu l'élastique, puis elle se met amie, puis on sait que c'est un âge aussi où on se découvre, puis la socialisation, ça se fait aussi avec comme « t'es pas game de faire ça », puis là, oh, puis là, on les voyait. Puis je me souviens, à un moment donné, un moniteur l'avait emmené dans mon bureau, puis là, ça, c'était cute, là, puis là, elle était là, puis là, OK, puis là, mais c'est beau, ces moments-là, parce que c'est la découverte de l'enfance, il y a rien de plus touchant à ce moment-là. Fait que...
Tantôt, on a parlé de bénévolat, donc, parce que j'ai entendu, il y avait la crainte de la maman, hein, derrière, oui, il y a les capacités, il y avait la condition d'Alejandra, de sa condition physique, mais il y avait maman derrière qui avait un petit peu peur aussi de l'envoyer dans un milieu comme ça. Donc, ce bénévolat-là, comment ça s'est organisé? Il y avait besoin de volontaires, vous avez levé la main, puis c'est dans quel genre d'activité que vous étiez intégré?
C'était nommé la volontaire à Île-des-Sœurs.
Ouais.
La volontaire.
Parce que vraiment, à toute activité qui s'est présentée, ici, ma fille va être là, je dis, OK, j'ai participé au moins pour la regarder de loin, parce que je ne voulais pas être toute sur elle, mais quand même être proche si jamais elle aurait besoin de moi. Non? Et c'est comme ça que je pense que j'ai fait ces 2-3 fois semaine à Lille. C'est pour ça que ça a changé en 2018, parce que je ne pouvais pas être toujours derrière elle. Mais en 2017, c'était tout avec elle. Et c'est comme ça que j'ai vécu aussi. Et j'étais vraiment touchée quand j'ai vu ces moments qu'elle a réussi à faire quelque chose. Non? Et je me rappelle beaucoup que quand elle faisait des marches plus longues, non? Elle disait, maman, j'ai dit que j'étais fatiguée et ils m'ont pris dans ses bras. Donc, ils ont continué la marche et elle profitait des fois. J'ai dit, Alejandra! Mais bon, elle a profité de ça. Depuis, autre chose que j'ai aimé beaucoup parce que j'étais vraiment témoin avec elle quand, en fois dans la natation, avant que les enfants vont plonger. Ils font comme un test pour lui donner un bracelet d'une couleur particulière et voir qui va mettre un gilet ou qui non. Oh mon Dieu, ça marchait. Elle a réussi. Elle était tellement contente qu'elle ait son bracelet qui pouvait être sans gilet parce que les autres enfants mettaient son gilet, le plus grand, mais elle non. Donc j'ai dit, waouh, c'était vraiment quelque chose.
Vous étiez témoin de ces moments-là.
Oui, mais grâce à justement que j'ai eu l'opportunité d'être bénévole dans les camps.
Je vais dire sans nombre de doutes que Teresa est dans les bénévoles les plus appréciés puis présente dans plusieurs activités en dehors même du camp de jour. Mais ce n'était pas la seule parent aussi qui souhaitait avoir, que ça soit par crainte ou même besoin des fois de rencontrer des gens aussi, parce que des fois tu arrives dans un pays puis t'as pas nécessairement un travail, puis là ton enfant est au camp de jour, fait que t'es à la maison, fait que ça devient comme un, ah ben tu sais, je vais aller socialiser avec, puis je vais m'assurer que mon enfant est en sécurité. Fait que nous, puis nous, aujourd'hui maintenant, dans plusieurs camps de jour, on a ce qu'on appelle des aides animateurs. Fait que souvent on va chercher des jeunes 13-14 ans qui viennent compléter un peu l'équipe d'animation. Nous, on n'avait pas nécessairement cet accès-là. On est un nouveau camp. Fait que souvent, c'est des anciens campeurs jeunes qui, bon, ils ont 13-14 ans, ils peuvent pas nécessairement devenir moniteurs parce que ça prend un certain âge. Fait que c'est comme un entre-deux. Fait qu'ils viennent gagner cette expérience-là. Nous, étant comme un nouveau camp, on n'avait pas cette base-là. Fait qu'on a fait, dès la première année, un peu un appel à large. On est un centre intergénérationnel. Fait qu'on a une belle clientèle de personnes qui sont à la retraite aussi, puis des parents comme je viens d'expliquer, qui sont en situation qui n'ont pas nécessairement le travail puis tout ça. Fait que nous, les gens qui voulaient venir donner du bénévolat, fait qu'ils participent, puis ça va un peu aussi dans le même sens que la mission des activités intergénérationnelles. Donc, parce que le partage des personnes qui sont à la retraite avec des personnes qui sont jeunes, c'est très gagnant parce qu'il y a un partage d'expérience, partage de dynamisme aussi du jeune. Fait que c'est vraiment très gagnant comme relation pour ça.
Est-ce que vous trouvez qu'au Québec, on est assez inclusif dans les loisirs, justement? Puis là, peut-être que la question va plus s'adresser à Robert là, avec le centre de recherche, mais est-ce qu'en général, les camps de jour au Québec, on a fait des bons pas vers l'inclusion? Parce que je sais que j'ai 2010, il y avait beaucoup de camps spécialisés, puis il y avait beaucoup d'automatisme. Hein? On reçoit une demande d'inscription, un enfant est en situation de handicap, il y a un diagnostic, et là, on le renvoie là, au camp spécialisé à 45 minutes de route. Est-ce que maintenant, aujourd'hui, c'est mieux?
Bien, c'est sûr que, mettons, ma valeur très forte sur l'inclusion va toujours dire, bien, toujours pas assez parce qu'on peut toujours s'améliorer. Mais bon, ceci dit, tu sais, la perfection n'existe pas. On est quand même dans une bonne démarche vers ça. Puis cet été, j'ai eu la chance justement de travailler avec le GIREL et par le projet Médiation par les pairs. Parce que quand on parle on parle souvent d'accessibilité. Fait que là, des gens qui ont certains besoins, un handicap, exemple, d'avoir accès à une place, c'est déjà une bonne marche en avant. Par contre, on veut pas s'arrêter là parce qu'on veut que la personne, le sentiment d'appartenance est hyper important, puis le sentiment d'être inclus dans la place, donc de moins voir ces différences ou plutôt accepter ces différences, puis considérer qu'on est tous différents, c'est dans les prochaines étapes qu'on est présentement en train de faire. Fait que la médiation par les pairs, ce que j'ai trouvé hyper intéressant, puis qu'on est dans le projet, on est en train de faire l'évaluation de l'outil qu'on a implanté. Ça fait à peu près 3 ans qu'on travaille sur le projet, puis là, on fait l'évaluation dans certains camps de jour que j'ai eu la chance de pouvoir faire cet été, comme à Sherbrooke, à Valleyfield, il y a eu également à Nicolet, puis d'autres places. Le but, c'est que tout le monde participe à ça. Parce qu'avant, on se disait, OK, on a une personne qui a un besoin particulier, puis là, après ça, on a un accompagnateur pour pouvoir être avec la personne. Mais c'est pas juste cette personne-là qui doit le travailler. C'est autant l'accompagnateur, oui, mais le moniteur également, l'aide à moniteur, le parent, les autres enfants, le coordonnateur. C'est un gros travail d'équipe. Peut-être que c'est ça que nous, on s'est dit, parce qu'on n'était pas spécialisés. Fait que c'était pas on a un accompagnateur. C'est tout le monde veut la même chose. Fait qu'on y travaille tout un peu à notre capacité. Fait que je pense qu'on est un peu dans ça. On parle beaucoup de, c'est ça, travailler en intersection, travailler en système maintenant, c'est un gros changement qu'on est en train de voir. On devrait plus travailler en département comme on le fait, parce que finalement, si on travaille en département, on se partage pas ces bons coups-là de comment les faire. Fait que je pense que c'est ce qu'on est, on est présentement dedans. Moi, je vais être très transparent. Je viens de commencer avec le GIREL, ça fait juste quelques mois que je suis là, mais tout ce que je vois, c'est un peu cette même partage de valeurs-là. Comment est-ce qu'on peut communiquer ensemble pour être capable de vraiment se partager, puis avec tous les mêmes valeurs. On veut tous que l'enfant, un peu comme tout le monde, on veut tous se sentir à sa place, puis qu'on peut contribuer, puis comment est-ce qu'on peut avoir ça, travailler ensemble dans ce sens.
Et Teresa, un camp de jour qui serait parfaitement inclusif, un milieu qui serait, une école qui serait parfaitement inclusive, ça ressemblerait à quoi si on avait une superbe baguette magique?
Moi, je pense que c'est un travail vraiment en équipe, non? Des fois, n'est-ce pas nécessaire peut-être avoir toutes les règles, les normes, comme on avait dit, mais c'est beaucoup de sens commun, hein, de qu'on a le compromis vraiment de faire bien les choses. Donc ça, déjà important, même si c'est, comme on dirait, de façon subjective, ça déjà, c'est un bon début, parce que, en plus, ça normalise les enfants qui pensent qu'ils ont quelque chose de différent dans lui. Parce qu'Alejandra, à l'âge de 7 ans, elle ne savait pas c'est quoi ça, pourquoi est-ce qu'ils font autant attention de moi, pourquoi est-ce que je vais me rendre toujours à l'hôpital de rendez-vous, et tout ça, elle ne comprenait pas. Elle a remarqué tout ça juste à 10 ans, à l'âge de 10 ans, que premier rendez-vous avec le médecin, il a mal, il y a quelque chose dans mon corps, quelque chose, non? Donc bon, ça c'était une autre chose pour elle. Mais moi je dirais, au niveau scolaire et tout ça, ou d'un camp, c'est vraiment les personnes qui vont travailler là-bas, que ce soit l'empathie, qu'il doit avoir beaucoup, beaucoup d'empathie, vraiment. Ça c'est, je pense, important. N'importe quelle sorte de travail qu'on pourrait faire, c'est juste de se mettre, comme dire, dans les souliers de l'autre personne. Comment est-ce que moi j'aimerais être traitée? Qu'est-ce que je dois faire pour améliorer ça? Et ma fille à secondaire me parlait qu'à l'école, il parle qu'elle n'est pas comme un étudiant canadien. Ce n'est pas un citoyen canadien, c'est un citoyen du monde. Donc, on doit faire du bien au monde. Donc, moi, j'ai trouvé ça vraiment beau, parce que moi, j'ai dit, c'est vrai, on n'a pas vraiment de drapeau ici ou là, parce que tous sont des êtres humains, on a les mêmes besoins, les sentiments, c'est la même chose. On aimerait, les gens qui aiment faire le bien, n'importe dans quel endroit qu'il va être, il va faire le bien. Mais même chose, les personnes qui ne font pas les bonnes choses, n'importe où vont être, vont faire la mauvaise chose. Si j'aurais une baguette, je dirais que ça serait pour moi, c'est qu'au moins les gens essayent de comprendre les autres et savoir que je dois faire le bien à l'autre sans regard à qui.
On pourrait renommer le balado comme ça, inclusion égale empathie. Je pense que c'est la base. C'est très, très bien résumé.
Je suis 100% d'accord.
Wow. Puis, et Robert, si vous aviez un message à envoyer là, aux gens qui sont à la tête d'un camp de jour comme ça, coordonnateurs ou qui sont en train d'en créer une chose à leur dire. Mais là, c'est sûr que passer après Teresa qui vient de dire résumer si bien les choses, c'est plus difficile, mais...
C'était une grande sage, Teresa. Mais l'empathie, c'est vrai que c'est la clé, c'est d'être capable de se mettre à la place. Puis j'imaginais comme, tu sais, faut jamais traiter quelqu'un différemment à cause d'une condition, parce qu'à un moment donné, tout le monde va avoir sa différence. Puis je sais pas pourquoi, mais je pensais l'image un peu d'un animal comme un chien ou un chat, il voit pas, lui, la différence. Quand il va n'importe quel humain, puis là, on parle de besoins particuliers ou de différences, mais ça va aussi avec toute... La couleur de la peau, les langues et tout ça, un animal, il voit aucunement la différence. Fait que pour cet aspect-là, là, soyons plus comme des chats ou des chiens, là, juste plein d'amour à donner, puis d'empathie pour cette belle communauté terrestre de terre-là.
C'est très inspirant. En fait, elle est très inspirante et vous êtes très inspirante aussi.
Oh, merci.
Tout comme Robert.
Oui.
Et cette belle création de camp. Très heureuse de vous avoir rencontrée aujourd'hui pour qu'on ait cet échange-là.
Merci beaucoup.
Le balado Tout inclus est le troisième épisode d'une série d'entretiens inspirants sur l'inclusion des personnes en situation de handicap dans différentes sphères de notre société. Il est produit par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, monté par Jack Duhem de l'équipe des communications, idéalisé et animé par moi-même. Et je remercie Teresa et Robert de nous avoir partagé leur histoire et le centre intergénérationnel La Station à l'Île des Sœurs de nous avoir accueillis dans leurs magnifiques locaux. Vous pouvez aussi voir notre visite en photo sur le site web de la Commission et sur nos différents réseaux sociaux.